Europe 1.
Bonjour, c'est Fabrice Delmeda. Dans cet épisode, on va s'intéresser à un immense monument français, le Louvre, à Paris, avec son bâtisseur.
Au cœur de l'histoire.
Ce matin, un chiffre vertigineux, plus de 10 millions de personnes ont visité le Louvre à Paris en 2018. C'est un chiffre jamais atteint par un musée international de beaux-arts et d'antiquités. Le Louvre qui enregistre une hausse de 25% par rapport à 2017 et qui bat son propre record de fréquentation.
C'est donc le plus grand musée du monde, le Louvre. Cette espèce de vieille dame devant laquelle nous passons parfois sans y prêter attention, qui a donné lieu à des combats homériques autour de la pyramide de Paille. Mais au fait, depuis quand le Louvre est-il ce grand musée qui rassemble des chefs-d'œuvre du monde entier? Est-ce que ça a commencé sous la monarchie? Est-ce que c'est un produit de la République, comme on le dit souvent? Ou est-ce qu'au contraire, cet ensemble monumental est un enfant de la Révolution et de l'Empire? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en revenant sur le moment où le Louvre a pour la première fois recueilli la plus grande collection d'objets d'art au monde. C'était à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, avec un personnage qui en est la clé, Vivant de Nom. Eh bien, pour découvrir cette grande figure, suivez-moi au cœur de l'histoire. L'histoire du Louvre comme plus grand musée au monde, comme plus grande collection d'objets d'art de son époque, commence paradoxalement en Égypte. C'est en juillet 1798 que Bonaparte, le consul Bonaparte, s'est lancé dans cette expédition qui doit à la fois donner des avancées militaires, économiques et scientifiques. Autour de lui, un aréopage de savants et de militaires, et parmi eux, un homme, Dominique Vivant. Son nom de famille, c'est Denon, et on le surnomme, on l'appelle généralement Vivant Denon, est de ceux-là. Dans cette expédition, il joue un rôle particulier. Il doit être à la fois un expert en art et aussi un dessinateur. Il en ramènera d'ailleurs de nombreux croquis. Denon rêve de voir Alexandrie, rêve de voir les pyramides, rêve de voir tous ces objets d'art qui remontent, selon lui, à l'aube de l'humanité. C'est au cours d'une visite à la Vallée des Rois, dans un des tombeaux qui s'y trouvent, qu'il découvre un papyrus sous forme de rouleau. Il le rapportera à Paris avec cette idée que les hiéroglyphes qu'il contient sont peut-être une des clés de l'histoire de notre monde. C'est pendant cette mission en Égypte que Vivant Denon noue une relation de proximité, d'intimité presque, avec Bonaparte. Le général lui confiera par la suite son grand œuvre, l'idée de faire un grand musée qui concentre les chefs-d'œuvre de l'humanité. Un an plus tard, Vivant Denon et Bonaparte reviennent sur le même bateau en France et débarquent dans le petit port de Saint-Raphaël sur la Côte d'Azur. Nous sommes le 9 octobre 1799. Un mois plus tard, le 18 Brumaire, Bonaparte fait un coup d'État. Il deviendra consul à vie et bientôt empereur. Vivant Denon, de son côté, publiera son voyage dans la Basse et la Haute-Égypte pendant les campagnes du général Bonaparte, achevant ainsi de faire connaître au public non seulement les miracles des pyramides, mais aussi une citation de Bonaparte qui souvent est oubliée. « Soldats, du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Mais au fait, qui est cet homme? Qui est vraiment Dominique Vivant Denon? Revenons sur son parcours pour mieux comprendre la portée de ses actes. En réalité, rien ne prédestinait Dominique Vivant Denon à devenir ce personnage bonapartiste en diable. Quand il naît en 1747 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne, il est au sein d'une famille de la noblesse de robe, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans la justice ou dans les affaires et qui ont acquis progressivement un titre nobiliaire. Sa carrière aurait pu être assez modeste, mais comme beaucoup de provinciaux, il décide de tenter sa chance et monte à Paris à l'âge de 21 ans, pour achever ses études d'art. Il se fait remarquer à la cour et Louis XV le nomme gentilhomme ordinaire de sa chambre et c'est le début d'une carrière d'ancien régime. On le retrouve d'ailleurs 5 ans plus tard, attaché d'ambassade à Saint-Pétersbourg. Il y rencontre la grande Catherine, Diderot aussi. Manière de signaler qu'il est déjà un de ces intellectuels un peu déviants qu'on pourrait peut-être parfois qualifié de libertin. D'ailleurs, il publiera un texte de ce type racontant des histoires amoureuses. Mais il est précisément chassé de Russie pour ses relations avec une actrice française accusée d'espionnage. Était-il diplomate ou dans une affaire précisément libertine? On l'envoie alors en Italie. Il va d'abord séjourner à Naples de 1778 à 1785 avec pour fonction de faire de l'achat d'œuvres d'art et d'antiquités. En difficulté avec la monarchie napolitaine, il part à Venise et c'est là qu'il rencontre Isabella Teotocchi Bettine, celle qui sera la femme de son cœur et avec laquelle il entretiendra une très longue correspondance. Mais, une fois encore, les Vénitiens regardent Vivandenon avec un air un peu particulier. Ils pensent qu'il est un espion au service de la Convention. Le voici donc obligé de retourner en France au plus fort de la terreur. Il avait suivi jusqu'à présent la Révolution française depuis l'étranger, comme un émigré en somme, lui qui était un enfant de l'Ancien Régime. Mais en réalité, il a continué d'entretenir des liens avec les milieux artistiques parisiens qu'il avait connus à l'époque de ses études et au moment où il avait travaillé à la cour avant d'entrer dans la carrière diplomatique. Ce sont d'ailleurs ses contacts, et l'un d'entre eux en particulier devenu une figure phare de la Révolution, qui vont lui permettre d'échapper à la guillotine. C'est l'intervention du peintre David qui lui sauve la vie. C'est à ce moment-là qu'il va, pour la première fois, rencontrer un lieu qu'il connaissait évidemment comme tous les Français, comme tous les Parisiens, mais dont il n'avait pas été véritablement l'intime. Ce lieu, vous l'avez compris, c'est le Louvre. Car c'est un vieux palais en vérité que le Louvre. Il a été construit par Philippe Auguste dans le lointain XIIIe siècle, forteresse médiévale, sombre avec son donjon. Il a ensuite été intégré à la muraille de Paris par Charles V au XIVe siècle, avant que, au XVIe siècle, François Ier n'en fasse un palais Renaissance, faisant raser le donjon, ajouter la grande salle des cariatides, ainsi qu'une grande galerie qui servira notamment à Catherine de Médicis, qui trouve le lieu trop étroit et donc fait bâtir le château des Tuileries. L'ancien palais et le nouveau palais vont être reliés par une longue et grande galerie qui suit le cours de la Seine. Louis XIV, à son tour, intervient et réaménage ce lieu alors même qu'il est en train de construire Versailles. Mais une idée s'impose. À partir de Louis XIV, le salon de peinture s'y déroule régulièrement, tous les deux ans. Et l'école royale des élèves y est accueillie aussi. Le Louvre devient progressivement un lieu d'art. À côté de la puissance publique, de l'État, il y a la magnificence publique, la beauté qui orne ce palais. Et déjà, un philosophe comme Diderot peut, en 1765, réclamer le Louvre pour les artistes.
L'achèvement de ce majestueux édifice, exécuté dans la plus grande magnificence, reste toujours à désirer. On souhaiterait, par exemple, que tous les rez-de-chaussée de ce bâtiment fussent nettoyés et rétablis en portique. Les académies différentes s'assembleraient ici, dans des salles plus convenables que celles qu'elles occupent aujourd'hui. Enfin, on formerait divers appartements pour loger des académiciens et des artistes. Voilà, dit-on, ce qu'il serait beau de faire de ce vaste édifice, qui peut-être, dans deux siècles, n'offrira plus que des débris. Monsieur de Marigny a depuis peu exécuté la plus importante de ces choses, la conservation de l'édifice.
Dans ce texte de Diderot, extrait de l'Encyclopédie, c'est déjà tout le débat qui anime la Révolution qui est en place. À partir de 1791, en effet, on commence à discuter d'un projet qui déjà, il faut le dire, avait été évoqué sous Louis XVI, l'idée de faire du Louvre un muséum national. Et donc, on commence à se demander s'il serait possible d'avoir un lieu centrale dans la République qui rassemblerait toutes les œuvres d'art et qui permettrait de les ouvrir au public, de les montrer au public, d'en faire en quelque sorte un lieu d'instruction générale en matière d'art et de connaissances humaines. Et c'est ainsi que Vivandenon fait part à un de ses amis de l'enthousiasme qu'il a pour ce projet.
Mon ami n'a rien exagéré dans son enthousiasme du muséum. C'est une chose infinie et qui s'augmente tous les jours. Car on y rassemble tout ce que l'on trouve chez les émigrés et dans les églises. Mon amour-propre a été assez flatté d'y trouver une collection de toutes mes gravures, dans de belles bordures. On me rend tout ce que j'avais ici et qui allait être vendu. On va tout à l'heure décréter et procéder à l'accomplissement du plus grand de tous les palais que plus de 3 siècles de rois n'avaient fait que commencer.
Après donc qu'a été adopté le décret du 27 juillet 1793, quelques mois plus tard, le 18 novembre, a lieu un événement extraordinaire. Tout Paris en parlera. C'est l'ouverture du Louvre à l'ensemble des Parisiens et des Français, gratuitement. On a ouvert à toute vitesse des collections, des galeries, des œuvres à présenter. Il y a un peu de désordre, un peu de fouillis dans cette exposition. Mais tout de même, c'est la première fois que les Français sont invités à aller voir tous les chefs-d'œuvre collectionnés par la monarchie puis par la République dans un lieu unique. 18 novembre 1793, c'est la première visite guidée du Louvre, pourrait-on dire. Mais ce n'est rien à côté de ce que va faire Vivant-Denon. C'est le 19 novembre 1802 que paraissent deux décrets consulaires. Le premier dissout la commission administrative qui, juste à présent, s'occupait du Louvre. L'autre instaure un poste de directeur général du Muséum central des arts. Et son titulaire est Vivant-Denon. Il est le grand maître d'œuvre de tous les arts français. Son autorité comprend, tenez-vous bien, le musée des monuments français, le musée spécial de l'école française à Versailles, les galeries des palais du gouvernement, la monnaie des médailles, les ateliers de calcographie, la gravure sur pierre fine et sur mosaïque, l'acquisition et le transport des objets d'art. Bref, il est le grand maître d'œuvre de Bonaparte. Quelque temps plus tard, Bonaparte est sacré empereur, il s'appelle désormais Napoléon. Et tout naturellement, Vivant-Denon change le nom du Louvre qui devient le musée Napoléon. Il écrit à sa lointaine fiancée, Bettine, pour lui dire à quel point le travail désormais l'occupe.
Il est bien vrai que j'ai une superbe place et que tout le monde a été bien aise que je l'eusse. Qu'elle ne me sort pas de mes goûts, qu'elle me paiera de la dépense à laquelle elle m'oblige. Qu'elle ne change rien à mon existence ordinaire et qu'il n'y a plus de raison pour que j'aie un instant de vide dans toute l'année. Je n'ai plus un moment à moi, mais je me suis accoutumé à vivre pressé et cela donne à la vieillesse un certain air de verdeur qui trompe le temps et les époques.
Comme Napoléon veut être le maître de l'Europe, Vivant-Denon veut être le maître des arts à l'échelle de l'Europe. Il n'arrête pas de faire venir des œuvres à mesure que les conquêtes impériales se déroulent. Il obtient ainsi d'avoir des œuvres qui vont venir d'Italie, d'Allemagne, de Russie même. Il fait venir les plus belles sculptures de l'ensemble du théâtre méditerranéen. La statue de la déesse Athéna en majesté, dite Pallas de Velletri, elle vient de Naples. La Vénus de Médicis, qui vient de Florence. Et puis s'y ajoutent des œuvres prises au Vatican en fonction d'un traité effectué avec le Saint-Siège par Bonaparte en 1797. Si on regarde l'ensemble de la collection, on trouve de magnifiques primitifs italiens, des primitifs flamands, les chevaux de Saint-Marc et tant d'autres joyaux qui rentrent un à un au Louvre comme s'ils devaient finir leur existence ici. En fait, Vivant-Denon n'est pas seulement un conservateur d'œuvres d'art. Il devient aussi l'artisan, le maître du Louvre. Il va superviser les travaux de construction de l'Arc de Triomphe sur la place du Carrousel, cette place qui avait été ainsi nommée sous Louis XIV et qui désormais prend des allures de triomphe pour la Grande Armée. Il fait refaire aussi une grande partie des bâtiments de manière à pouvoir accueillir l'ensemble des œuvres dans les réserves. Mais à trop vouloir accueillir les œuvres, il finit par chasser les artistes du Louvre. Désormais, ils ne seront plus accueillis en résidence dans le bâtiment. Vivant-Denon ne néglige aucun détail. Il obtient que ses gardiens puissent porter l'habit de la maison de l'empereur. Et surtout, il veut avoir une sécurité irréprochable. Quand on garde un tel trésor, il faut éviter un vol. Deux postes militaires contrôlent donc les entrées et s'y ajoute une sentinelle permanente, place du Carrousel, à l'angle du bâtiment où sont conservées les monnaies et médailles, de manière à éviter que quelqu'un soit tenté d'y effectuer une visite surprise. Le bâtiment, désormais, est une forteresse, autant qu'un joyau précieux à préserver. Vivant-Denon en est tellement fier, si fier aussi de pouvoir offrir tout cela aux Français gratuitement. Car l'accès au musée reste gracieux et il le sera, tenez-vous bien, jusqu'en 1922. Denon écrit à quel point il est satisfait de l'œuvre qu'il a accomplie.
Si tu voyais le musée, tu brûlerais d'écrire. Tu serais d'ailleurs si aise de dire « C'est mon ami qui a rassemblé tout cela, qui l'a augmenté d'un grand tiers. Les 10 dernières années de ma carrière seront plus pleines que tout le reste de ma vie. Je n'ai point l'amour-propre d'avoir fait le musée. Je suis en tout ceci l'homme des circonstances inouïes qui avait élevé un monument immense.
Denon s'est hissé à la hauteur du projet napoléonien. Il a réussi à composer un bâtiment gigantesque. Il a réussi à rassembler la plus grande, incontestablement, la plus grande collection au monde d'objets d'art, bien au-delà de ce qu'avait pu rêver un François Ier quand il était allé en Italie acquérir les œuvres de Léonard de Vinci, quand il avait fait don à la France de la Joconde. Jamais personne n'avait rêvé une telle collection, même les Romains n'en avaient pas de pareil. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, en 1811, au fait de sa position, qu'il est touché par un étrange vertige. Il s'en ouvre d'ailleurs à son amie Bettine. Et si toute son œuvre et si toute sa vie n'était pas déjà achevée ?
J'achevais le plus beau, le plus grand monument qui ait jamais existé. Vous n'accepterez de monument, sire, que ceux d'un genre qui, en consacrant votre gloire, en donneront la mesure et rendront les nations étrangères tributaires de vos magnificences.
À force de campagne à l'étranger, l'image de Vivant Denon a été transformée. Il n'est plus considéré comme le sympathique adjoint d'un général qui essaye de porter dans le monde entier les libertés si chèrement acquises par la Révolution française. Non, il est regardé désormais comme le complice d'un conquérant qui ne cesse de piller les pays voisins. On lui donne d'ailleurs à Vivant Denon des surnoms peu flatteurs. On l'a surnommé ici ou là le voleur, le prédateur, l'huissier priseur de l'Europe. Bref, on a tendance à le regarder comme quelqu'un qui, sans honneur, s'approprie le bien d'autrui. Évidemment, à mesure que l'Empire va connaître des défaites et des reculades, la position de Vivant Denon va devenir de plus en plus fragile. En 1815, l'Empire s'effondre pour la seconde fois. Que faire de toutes les œuvres qui ont été transportées à Paris et qui ont été concentrées dans ce gigantesque ex-musée Napoléon, qui désormais retrouve le nom de Palais du Louvre? Deux semaines après Waterloo, c'est l'un des chefs des adversaires de Napoléon, le duc de Wellington, le fameux général anglais, qui donne le ton en écrivant à son gouvernement ce qui serait la meilleure politique selon lui.
Il est de plus à désirer pour le bonheur de la France et pour celui du monde que si le peuple français n'est pas convaincu que l'Europe est trop forte pour lui, on lui fasse sentir que quelque grand qu'aient pu être ses avantages partiels et temporaires sur une ou plusieurs des puissances de l'Europe, le jour de la restitution doit arriver à la fin. Mon opinion est donc qu'il serait injuste au souverain de condescendre au désir de la France. Le sacrifice qu'il ferait serait impolitique puisqu'il leur ferait perdre l'occasion de donner aux Français une grande leçon de morale.
On peut imaginer aisément ce qui devait se passer dans la tête de Vivant Denon à ce moment-là. Une sorte de rage sourd, le sentiment qu'on était en train de casser son jouet, sa collection, que tous ces idiots d'Européens avaient perdu de vue l'idée qu'ils pourraient en un seul lieu tout consulter, tout regarder. Évidemment, Vivant Denon pouvait se plaindre de ses adversaires, mais la réalité est bel et bien que la France avait pillé des œuvres d'art et qu'elle devait les restituer. Environ 5000 œuvres ont ainsi été rendues à leur pays d'origine. Une centaine a été conservée, notamment des italiennes, ce qui, d'ailleurs, fait parfois encore l'indignation de nos amis d'Outre-Alpes qui, comme le ministre Salvini, en viennent parfois à réclamer dans ce vieux dossier que l'on restitue les quelques œuvres qui sont restées dans notre vieille maison du Louvre. Mais le Louvre n'est plus une vieille maison. Avec les travaux qui ont été effectués, notamment sous Napoléon III, le palais a trouvé un lustre étonnant. En 1871, il est passé près de la catastrophe, rappelez-vous. C'est le moment où un incendie volontaire a frappé le palais des Tuileries. L'incendie s'est propagé par la grande galerie, il aurait pu enflammer les réserves artistiques du Louvre, mais il n'en fut rien. Il fut sauvé des flammes, et ainsi, il fut par la suite réparé et restauré, et devint l'écrin dans lequel se trouve l'œuvre d'art la plus connue au monde. Oui, je l'ai évoqué, vous l'avez deviné, c'est la Joconde. Aujourd'hui, elle est celle qui attire encore le plus de visiteurs dans ce musée dont nous savons désormais qu'il est le plus visité au monde. Ce qu'il y a de singulier dans cet espace, c'est qu'il réussit encore à se donner des airs de jeunesse. En 1989, à l'occasion du bicentenaire, le président François Mitterrand avait fait construire, dans la cour Napoléon, une pyramide confiée à l'architecte Yuan Mingpei. Elle est haute de 22 mètres et sa fonction n'est pas seulement décorative puisqu'elle permet à la lumière de pénétrer au cœur de l'actuel musée. Ce musée, d'ailleurs, est encore retourné d'une certaine manière à ses origines. En 2012, il a ouvert une section des arts de l'islam et l'a présentée au grand public pendant une longue exposition. Là encore, on retrouvait les traditions de lien avec l'Orient qui avait été fondée par Bonaparte et Vivant de Nom. Le Louvre s'inscrit dans une logique actuelle, celle de la mondialisation. Il n'est plus un musée patriotique, mais il prétend porter une sorte de culture mondiale qui d'ailleurs aurait paru naturelle à Vivant de Nom, ce révolutionnaire universel. Il y a désormais d'autres Louvres. Il y a un High Museum aux États-Unis qui est un musée frère du Louvre. Il y a des musées labellisés, comme le Louvre des Sables à Abu Dhabi, dans la capitale des Émirats Arabes Unis. Le bâtiment est ainsi devenu une sorte de cœur qui repose sur une marque, qui s'appuie sur un pays, mais qui pense et qui résonne partout dans le monde. Ce podcast est terminé. Je tiens particulièrement à remercier une auditrice, Anne. C'est elle qui nous a suggéré ce sujet sur les origines du Louvre. Donc vous voyez que vos idées nous sont très précieuses et très utiles. N'hésitez pas à nous les signaler, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission ou sur le site de cette émission. Et puis bien sûr, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Encore une dernière chose. Pour faire cette émission, un livre nous a été particulièrement utile. C'est celui de Jean Marchionni, « Vivant de Nom » ou « L'âme du Louvre » et il est paru aux éditions Actes Sud. À très vite donc.
Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio, présentée par Fabrice Dalméda, préparée par Simon Maisonneuve et réalisée par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. À bientôt pour un prochain épisode.